55 ans, qui fume 10 cigarettes par jour, abrège son existence de 4 ans et 6 mois. S'il fume entre 10 et 20 cigarettes, de 5 ans et 5 mois, de 1 à 2 paquets, de 6 ans et 2 mois, au-dessus de 2 paquets, de 8 ans et 3 mois. Une enquête canadienne portant sur 92 000 adultes pendant 6 ans a révélé chez les fumeurs de cigarettes un excédent de mortalité de 50%. L'excédent était de 68% pour les accidents cardiovasculaires, 771% pour le bronchite et emphysème, 1391% pour le cancer du poumon, soit près de 14 fois de plus de risque de mourir d'un cancer du poumon qu'un non-fumeur. La présence de corps cancérigènes dans la fumée du tabac a été démontrée chimiquement et biologiquement. Le risque de cancer d'un fumeur par rapport à un non-fumeur est de larynx 10 fois, poumon 10 fois, cavité buccale 4 fois, œsophage 4 fois et vessie 2 fois. D'après le Public Health Service, 31% des Américains meurent d'infection cardiaque et le taux de mortalité est 30 fois plus élevé pour ceux qui fument un minimum de 27 cigarettes par jour que pour ceux qui n'ont jamais fumé de leur vie. L'histoire que je vais vous raconter est strictement vraie. Celui dont il est question a pris une des attitudes les plus braves qui soient, celle de mettre son cœur, sa vie et l'ensemble de ses impressions les plus intimes sur la voie publique. Pourquoi? Parce qu'il était guidé par un amour profond et un intérêt désespéré pour ceux qui, et c'est sa prière au Seigneur, pourront profiter de son expérience. Il parle spécialement aux jeunes à qui il dédie ce poignant témoignage. Il était exactement à la place où sont même en cet instant tous ceux qui tentent d'éloigner des sables mouvants vers lesquels tant de belles et fraîches jeunesses et conduites. Ceci représente l'apogée d'une tentative faite de courage personnel et de force d'âme qui s'exprime avec des mots pathétiques et désespéré. Cet homme sacrifie ses derniers jours pour que la vie de milliers de jeunes soit plus belle, plus pure, plus joyeuse aussi. Vous allez encore vous parler avec son cœur, avec son âme, et c'est à vous personnellement qu'il s'adresse. Mon nom est Tom Medlock. Je suis vraiment une personne, et nombreux sont ceux qui me connaissent depuis 51 ans, et cela vous donne mon âge. Je vis dans la ville de Ada, dans l'Oklahoma, et étais tout au moins pour la plupart du temps un membre de l'Église de Christ. J'étais très actif dans mon travail pour l'Église, enseigner la Bible aux jeunes et aux moins jeunes, diriger les cantiques durant les cultes et les études bibliques, à la même chez les gens, dans leur foyer, pour leur parler du Maître, et à de nombreuses occasions même, je me suis adressé depuis le pupitre à de grandes audiences. J'ai connu l'Église sous tous ses aspects possibles et imaginables, et même été nommé ancien, la fonction spirituelle la plus élevée sur terre. D'innombrables fois, j'ai eu l'occasion de voir des âmes se donner au Maître. Je me précipitais alors vers eux pour les encourager à suivre fidèlement le sentier qui conduit à la vie éternelle. J'ai moi-même baptisé plusieurs personnes en Christ. Combien de fois n'ai-je pas également, ainsi que ma femme Bonnie, écouter des frères et des sœurs en Christ vider leur cœur. L'Église du Seigneur a été le centre de ma vie tout entière, avec son Dieu et parmi ses enfants. Oh oui, c'était le bon temps, et je m'en souviens avec tendresse. Aussi la petite église où nous allions au culte, et où tous les enfants apprenaient pas à pas la volonté de Dieu. Notre existence se tournait toujours autour de la petite épicerie plantée non loin de l'Église. De là, nous en sommes venus à faire la connaissance de centaines de gens qui sont devenus des amis très chers. Depuis, évidemment, les choses ont changé. Oh, combien elles ont changé. Voyez-vous, le bonheur s'est envolé. Et tout cela ne demeure que comme quelque chose qui a existé un jour. La tragédie est entrée dans notre maison. Une bâtisse qui venait d'être construite au milieu d'un des plus beaux paysages qui soient à l'est d'Eda. Un monde tout à fait nouveau nous a saisi à la gorge et a fait de moi une de ses victimes sans défense. Lorsque j'étais vraiment arrivé au sommet de ma carrière, au moment précis où Bonnie et moi nous étions installés pour avoir enfin la joie de la vie et nous reposer dans la douceur et le calme de cette campagne à une douce brise de Dieu bouleversement, tout a soudainement changé. Le bonheur, les joies futures, enfin définitivement acquises, se sont envolées. Car voyez-vous, en cet instant même, je me meurs d'un cancer du poumon. Ce fait est entré chez nous avec une intensité telle qu'aucun mot ne pourrait arriver à décrire ce que je ressens. Tout est parti. Les semaines qui viennent de s'écouler m'ont vu descendre chaque jour à une vitesse accélérée. Et comme je deviens chaque jour plus faible, des frères que j'aime tendrement tentent de me remonter le moral en me disant « Nous prions pour toi, frère Tom, nous prions pour toi. » Mais qui? Oui, vraiment, qui peut prier avec assez de ferveur quand cela vous atteint si brutalement à vous? Je considère la vie et le temps qui ont passé comme au travers d'un morne brouillard. Et je me dis qu'il ne peut en être qu'ainsi. Qu'il est certain que la vérité ne m'a certainement pas été dite. Ce n'est pas de moi qu'il parle. Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas de moi qu'il parle. Les docteurs ont exploré, épuisé même toutes les possibilités. Même après une chirurgie exploratoire extensive et les traitements au cobalt les plus draconiens, ils me disent avec de nombreux mots et d'innombrables approches que tout cela ne servirait pratiquement à rien. Je dois me préparer au pire. Les médecins ne peuvent rien pour moi. Toutes ces gentilles cartes et les grands mots des rapports médicaux n'y changeront rien. Je n'ai pas la plus petite parcelle d'espoir. La mort se dirige vers moi de loin plus tôt que je n'attendais. On dirait que je ne serai plus très longtemps parmi les habitants du globe. J'ignore quand le moment arrivera. Seul Dieu le sait. Les docteurs ne peuvent le dire non plus. Mais moi, je connais le verdict. Je me souviens de la toute première opération. Le chirurgien-chef était debout au pied de mon lit avec des larmes dans les yeux. Le docteur pleurait. Et c'est une chose qu'on ne voit pas très souvent, n'est-ce pas? Combien d'opérations avait-il déjà effectuées? Celle-ci était le salaire qu'il fallait payer à l'impossible. Et ceux qui avaient assisté savaient également qu'il arrive parfois que les efforts, aussi durs et aussi qualifiés qu'ils soient, ne soient pas nécessairement couronnés de succès. Il ne restait plus qu'une chose à faire au chirurgien, dire la vérité. L'opération avait consisté à enlever une côte pour ouvrir le haut de la cage thoracique afin de découvrir les racines de cette tumeur maligne localisée sur la branche souche droite, juste à son entrée dans le poumon. Elle s'était malheureusement étendue largement dans la périphérie du cœur, rendant ainsi toute possibilité d'enlever la tumeur impossible. Ce n'est que lorsque j'ai récupéré une certaine partie de mes forces que j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis un certain temps. Est-ce dû au fait de fumer? Et bien qu'hésitant à confirmer ce diagnostic, quatre de les mêmes médecins répondirent « C'est plus que probable. » Voyez-vous, ils savaient ce que le fait de fumer pouvait signifier pour le cœur humain. Et c'est sans aucun doute la raison pour laquelle ils ont répondu « C'est plus que probable. » Oh, Jean, Philippe, Jacques, André, ou Claire, Evelyne ou Béatrice, qui que vous soyez, ne passez pas par la même expérience que moi, je vous en supplie. Je me souviens, lorsque j'avais votre âge, comment cela a commencé. Permettez-moi de parler avec vous de ce qui m'arrive aujourd'hui et de ce qui arrive pratiquement à tous les fumeurs qui veulent trouver la paix en eux-mêmes à propos du fait qu'ils fument, même s'ils ne sont pas pleinement conscients et informés du danger qui court. J'ai commencé vers l'âge de 13 ans, car je pensais que cela ferait de moi un grand, un homme. La cigarette représentait pour moi le symbole d'un prestige de maturité définitive. Vraiment, je ne mourrais nullement d'envie de fumer, absolument pas. J'étais simplement devenu curieux, et après tout, j'avais l'impression de passer ainsi du stade de gamin à celui de jeune homme. Les autres le faisaient, et j'avais aucune envie d'être laissé de côté. Il fallait que je fasse partie de ceux qui fumaient, car cela donnait l'impression d'appartenir à une caste. Ceux qui s'abstenaient n'étaient que des poumouillés. Croyez-moi, laissez-les vous appeler des lâcheurs, des bébés, à maman, c'est pas agréable. Mais c'est beaucoup plus facile que d'y laisser vos poumons, votre bonheur et votre vie. Garçons et filles, je préférerais vous tendre une petite vipère qui risque de vous mordre qu'un de ces petits bâtonnets qu'on nomme cigarette. et qui est un cancer en puissance. Elles peuvent vous dominer complètement. Elles peuvent littéralement manger les poumons que Dieu vous a donnés et dont le but est de respirer seulement l'air pur, l'air vrai. Je ne puis maintenant que tout ceci a transpiré supporter ni la vue, ni l'odeur, ni même l'idée de ces petits dragons empoisonnés. Il fut un temps où je prenais grand soin de ma personne et de ma garde-robe. Et maintenant, la plupart de ces étagères sont remplies de pilules, de flacons et d'ampoules qui doivent m'aider à supporter les derniers moments qui me restent encore. Et ils sont si précieux. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi de vous dire tout ceci. Mes instants sont comptés. Mes instants s'en vont. Écoutez l'horloge. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout de pratique, est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul, ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas.
Etienne Falconet, 3130 Balma.